marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
36 jours de cheval, toute la Chine derrière moi.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Victor Segalen, 1878-1919.
J'ai toujours tenu pour suspect ou illusoire des récits de ce genre. Récits d'aventures, feuilles de route, racontards joufflus de mots sincères, d'actes qu'on affirmait avoir commis dans des lieux bien précisés, au long de jours catalogués. C'est pourtant un récit de ce genre, récit de voyage et d'aventure, que ce livre propose dans ses pages mesurées, mises bout à bout comme des étapes. Je sais d'où il vient, de moi-même. Je sais qu'il n'est pas plus vrai qu'aucun autre, mais aussi qu'il n'est pas moins vrai. Je crois seulement que j'étais celui-là qui devait le mettre en lumière, et que j'aurais ainsi rempli mon rôle, voir le monde, et puis dire sa vision du monde.
De son vivant, ce fut un homme de peu de livres publiés. Il ne cherchait surtout pas à être actuel. Il aimait regarder en arrière, il écrivait en avant, et il ne fut vraiment connu que bien après sa mort. Son cycle polynésien, avec les immémoriaux, puis son cycle chinois, avec Stèle, peinture, René Leys, fut d'abord apprécié de quelques-uns, parmi lesquels Claudel, avec qui il entretenait un dialogue empêché. Les lecteurs, en nombre, ne vinrent que très tard. Médecin et marin, explorateur, archéologue et photographe, il aurait pourtant pu dérouler devant un large public des récits exotiques, mais il en avait horreur. Il disait que le commerce du dépaysement, c'était pour les proxénètes. Il ne fallait pas non plus s'attendre avec lui au récit de sa vie, si étonnante et variée qu'elle fût. Un jour, il a écarté un de ses poèmes au motif qu'il était trop vécu pour être écrit. Ouvrir un livre, c'est sans doute ouvrir un monde, mais un arrière-monde, et les choses intimes, proclamait-il, ne s'écrivent pas directement. Sa mort, il y a précisément 100 ans, porte sa signature et eut lieu dans sa Bretagne d'origine. Il n'avait pas cherché ailleurs des univers de substitution idéalisés, il était resté profondément breton. Au printemps 1919, on le retrouva dans un des endroits les plus énigmatiques du Finistère de l'Europe, sur une éminence, en bordure de la forêt et des chaos de Helgoat. À une haute personne, il fallait pour sa fin un haut lieu. On ne saura jamais si, désespéré par ce qu'il avait dû faire pendant la Grande Guerre, sevré d'opium, tiraillé entre deux femmes, il était mort d'épuisement, ou s'il avait mis en scène un suicide qui put être compris par ses proches et dissimulé aux autres, car les choses intimes ne se disent pas directement.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Christian Doumet, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Votre thèse, naguère, enfin on va pas du tout être universitaire avec vous, il y a peu de risques, portait sur Segalen. Lerne réédite le cahier numéro 71 que vous avez co-dirigé il y a 20 ans. Et, toujours en avant, vous préparez l'édition de la Pléiade.
Absolument, oui. Qui vient enfin... L'édition des œuvres presque complètes de Victor Segalen, qui paraîtra en avril 2020.
Donc, il faut dire que Segalen doit beaucoup à Gallimard, enfin, que chez Gallimard, on a parfois, certaines puissances d'autrefois, retardaient sa publication, non? On dit que Jean Paulhan n'était pas un fou de
oui,
Segalen
était,
ni Saint John Perse.
Oui, surtout pas Saint John Perse, oui.
Mais vous, si. C'est un médecin très important. Quand on le retrouve à Helgoat, il est, avec son uniforme d'officier de la marine, il est diplômé de l'école de Bordeaux en 1902. Le corps muet qui est à l'écoute des signes muets des autres.
Oui, c'était une dimension de sa personnalité et de son œuvre qui, je crois, ne le quittera absolument jamais jusqu'à sa mort, où il est obligé d'exercer d'ailleurs un geste médical, il est obligé de se garrotter pour éviter ce qu'il n'a pas pu éviter d'ailleurs, de devenir complètement exsangue. Et je Je pense que son attrait, par exemple, pour la sculpture en Chine est fait et composé aussi de cette attention au corps muet, au corps plein, qu'il arrive d'ailleurs, par un travail imaginaire dont on pourra reparler, qu'il arrive à faire parler véritablement. Et c'est ça qui l'intéresse.
Le corps, c'est l'agent privilégié de tous les transferts de sens.
Oui, c'est-à-dire que c'est en effet quelqu'un qui ne sépare jamais l'écriture de son activité, de son corps, de la vie du corps. Ses marches sont contemporaines de son écriture. Il fait des randonnées de plusieurs dizaines de kilomètres à cheval par jour. Et le soir même, il écrit comme un forcené. C'est totalement imbriqué dans son existence.
Dans le cahier de Lerne, il y a un très beau texte de James Sacré qui compare l'écriture au portage, vous savez, à l'homme de bas qui porte, qui avance. Il faut écrire tous les jours.
Il faut écrire tous les jours. C'est une allusion à un texte d'Équipé, l'homme de bas justement, qui raconte sa fascination pour le portage à travers la Chine, qui est une forme d'esclavage d'ailleurs. Et là encore, on trouve le corps.
Mais avant la Chine, le cycle polynésien, si vous le voulez bien. Donc, il est médecin. Sa thèse sur les cliniciens des lettres en 1902. Et en 1903, il est envoyé en Polynésie pour soigner les victimes d'un cyclone et il va se retrouver au bout d'un moment aux Marquises.
La race indigène meurt. Elle se meurt là, toujours, tuée par les Blancs, à coups d'alcool, d'opium, de fièvres éruptives et de tuberculose. Dans telle île, il y a exactement 5 décès pour une naissance. Dans 30 ans, mathématiquement, il ne devra plus exister un seul Marquésien. En attendant, ils dansent, chantent, s'amusent et boivent du jus de coco fermenté, ce qui équivaut à nos pires alcools. Ils prennent de très ironique façon les conseils. Les frères avaient imaginé de donner en maxime aux enfants des formules bien senties, comme « tu es malade parce que tu bois du jus de coco » ou « tu es malade parce que tu manges de l'opium ». Les Kanaks les ont admirablement apprises par cœur et retenues, ces formules moralisantes. Seulement, ils en ont fait des titres de danse spéciales que l'on exécute précisément en pompant le jus de coco. Il vient de mourir dans une île voisine, un peintre, échappé de l'école symboliste, celle-là même que j'ai défendue dans le Mercure de France. C'est un des disciples de la première heure. Il est venu se retremper aux civilisations primitives, a produit de très curieux bois sculptés, des tableaux du plus pur impressionnisme qui, naturellement, restent lettres mortes aux bons négociants et épiciers du pays. Il me plaît de dépouiller pieusement ces manuscrits, de recueillir sur ces derniers jours des impressions que je vais envoyer à ces amis de Paris qui me sauront gré d'avoir un peu représenté, si loin, une école qui m'est de plus en plus sympathique. Il s'appelait Paul Gauguin. Et sitôt de retour à Tahiti, je me suis empressé, comme un dernier devoir de piété artistique, de sauver de la dispersion les quelques œuvres reliques qu'il laissait. Celles-ci ont été vendues publiquement à Papette. Elles étaient à vrai dire peu nombreuses et peu caractéristiques de son développement. J'en excepterai 2 toiles, l'une figure 3 tahitienne détachée sur un ciel de chrome, acquise par un de mes camarades. La seconde qui m'est échue, c'est un douloureux portrait de Gauguin à mi-torse, le sourire triste. En épigraphe, près de Golgotha.
C'est Michel Bouquet qui interprète Victor Ségalen à différentes époques de l'histoire de la radio. On parlera de Gauguin dans un instant, on commence par les Marquises. Dans les 2 cas d'ailleurs, qu'il s'agisse de Gauguin ou des Marquises, il y a comme un sentiment de perte qui s'exprime chez Ségalen.
Oui, c'est un phénomène assez curieux que chaque fois qu'il arrive quelque part, il assiste à la fin d'un monde, en somme. D'abord, il y a ce cyclone qui ravage les Marquises et toute la Polynésie, fin 1902, et il est là au début de 1903. Et puis, il voit disparaître le monde maori, d'une certaine façon, non seulement physiquement, mais aussi le monde des légendes maori, le monde de la langue maori. Et lorsqu'il arrive arrivera en Chine, ben c'est la même chose. Il arrive au moment où l'empire s'effondre. D'ailleurs, c'est très curieux de voir que au moment où il passe en Russie en 1917 pour se rendre en Chine, il est là quelques jours avant le début de la révolution russe.
Mais aux Marquises, il soigne. Il dit qu'il inspecte des râteliers ecclésiastiques, qu'il arrache des dents, parce que le médecin de marine peut faire un peu tout.
Oui, 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 c'est son activité principale. La journée, il soigne, et je crois avec beaucoup, beaucoup de dévouement. Je crois qu'il a vu là des choses assez terribles, qui anticipent d'ailleurs ce qu'il verra pendant la guerre de 14, 1914-1915. Et puis, en même temps, après avoir mené cette campagne médicale, eh bien, il profite tout de même des Marquises et de la Polynésie avec beaucoup de suavité.
Et puis, on l'entend faire l'inventaire de la case de Paul Gauguin, qui a disparu peu de semaines après son arrivée, et qu'il aurait pu connaître, au fond, en Bretagne, parce que, avec ses amis, Gauguin est allé peindre la prairie de Pont-Aven en rouge, par exemple.
Absolument, oui, oui. Ils ont ça en commun, déjà. Et puis, tout l'arrière-fond symboliste que Ségalène reconnaît tout de suite. Et il comprend très vite à qui il a affaire. Peut-être pas tant du point de vue de la peinture, d'ailleurs. Ça prendra un certain temps que, en épluchant tous les textes que laisse Gauguin, il y a deux grandes caisses de cahiers, de notes, etc. Et c'est Ségalène qui met la main sur tout ça pour la première fois, et il comprend très vite ce dont il s'agit.
Alors, parmi les tableaux qu'il a récupérés, il y en a sept en fait, hein, avec des bois sculptés en plus. Il y a les Bretonnes au village. Enfin, je ne vais pas trop insister sur la Bretagne, mais à Huelgoat, là où il est mort, à l'école des filles que vous connaissez, il y a peu une manifestation autour de Ségalène. Et l'un des thèmes était, c'est assez joliment dit, la Bretagne part l'ailleurs, ou bien la Bretagne parle ailleurs. Parce que il va pas chercher des sociétés de substitution, il va au substrat de ce qu'il est lui-même.
Oui, oui, je crois que...
Et il essaye de retrouver son Finistère.
Il reste, même s'il ne le dit pas, il reste très attaché à cette terre, à cette culture, et sa mort le prouve d'une certaine façon.
Mais avant d'en venir à ce moment, il a disparu à l'âge de 41 ans seulement. Restons de nouveau encore dans le cycle polynésien. Le grand livre, ce sera dans ce cycle immémoriaux. Il a fait un texte sur la musique maori, et ce texte a obtenu un satisfecit de Claude Debussy. Dans le genre, c'est la chose la plus intéressante que j'ai lue. Et il s'en allait, quand il était à Brest, plusieurs fois, pour aller voir Péléas et Mélisande. Il demandait des places par télégramme. Debussy en a été plus ou moins informé. Quand il s'est présenté chez Debussy, eh ben Debussy l'a reçu, et Ségalène lui a proposé de travailler en toute simplicité avec lui. Debussy, très connu depuis La Mer, par exemple, 1905.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Le dialogue de la mer du vent était dirigé par Armin Jordan. Nous sommes pour évoquer Victor Ségalène, mort il y a 100 ans en compagnie de Christian Doumé, qui a écrit sur la poésie, sur Ségalène, sur la musique aussi. Il avait été proposé par Ségalène à Debussy un livret sur Siddhartha, puis le livret sur Orphée, qu'on a conservé, mais Debussy n'a pas écrit la première note, demeure presque le script de leurs entretiens.
Oui, c'est une époque où Debussy, après la grande affaire de Péléas, est à la recherche, de façon un peu désespérée d'ailleurs, du livret qui pourra lui permettre de remener cette aventure. Et je crois qu'il pressent chez Ségalène la possibilité d'entendre cette voix. Et c'est Debussy qui propose à Ségalène de travailler sur Orphée. Et Ségalène s'y met tout de suite, d'ailleurs, avec une bonne volonté extraordinaire. Un enthousiasme et il écrit un texte, mais surtout ce qu'il écrit, c'est qu'à chaque visite qu'il rend à Debussy, il note tous les échanges qu'ils ont tous les deux. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit travailler Debussy in vivo et on comprend comment se fait le lien entre ces deux personnages qui deviendront d'ailleurs amis véritablement. Et puis rien n'aura lieu sur le plan musical, mais il reste tout de même un beau fantasme d'une certaine manière.
1908, il commence à s'intéresser à la Chine, et quand il s'intéresse à la Chine, c'est pas pour aller y promener sa vision. Il commence à apprendre le chinois avant même de partir. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'écrivains français
à apprendre le chinois. Je crois que c'est l'un des seuls, notamment comparé à Claudel, qui lui n'a pas appris un mot de chinois. Ségalène prend soin, et avec une rapidité extraordinaire, d'apprendre le chinois écrit.
C'est sûr que Claudel, que Ségalène a rencontré plus d'une fois, il y avait une forte intensité entre eux. Il était très européo-centré, beaucoup plus que Ségalène, qui ne l'était pas, même s'il était conservateur dans d'autres domaines. J'ai trouvé mon lieu et mon milieu. Il part en expédition, il y aura trois expéditions, pour la première avec Gilbert de Voisin, ma mécène et un ami qui la finance. Il y a dans le cahier de Lerne que vous avez dirigé, qui vient d'être réédité, un texte extraordinaire qui est intitulé « Le Grand Fleuve ». C'est le destin de tout fleuve, de ne pas connaître d'autres fleuves que lui. Le fleuve connaît l'aventure où il court et s'y prépare. Ce qui se passe en aval est aussitôt connu en amont.
Lire ce texte, qui est un des plus beaux textes qu'il ait écrit, et qui est lié très intimement à la descente du Yangtze qu'il fera dans cette première expédition, lire ce texte, c'est en réalité comprendre très vite que pour lui, le fleuve, c'est l'image même du créateur. C'est la vision qu'il a de la création. Et personnifie le fleuve, et c'est lui-même qui tout à coup se reconnaît dans la vie subaquatique, profonde et sans arrêt dynamique du fleuve.
Auquel l'homme n'est qu'un petit parasite.
Oui, le parasite qui est représenté par les jonques qui, bien sûr, au passage des rapides, ne manque pas de chavirer. Et lui, d'ailleurs, un jour de passage difficile, prend la barre de la jonque et fait passer le rapide, ce qui sera l'objet d'un récit tout à fait extraordinaire.
Alors en jonque, à pied, à cheval, la couverture du cahier de Lerne, Ségalène, c'est Ségalène sur un cheval. C'est l'occasion de faire beaucoup d'archéologie, ça le passionne. Une fois, deux fois, il va rencontrer le fameux tombeau dit du premier empereur, c'est cet empereur qui faisait assassiner les lettrés, qui voulait raconter ce qui s'était passé avant lui, et dont la puissance, disait Ségalène, se mesure au boisseau d'oreilles coupées qu'il avait emprunté à ses ennemis. Ce tombeau, maintenant, chacun le connaît, parce que depuis, on a découvert l'immense armée de chevaux de fantassins qui accompagnait le premier empereur. Mais voici le texte de Ségalène lui-même.
J'ai eu ces jours derniers la fortune de mettre la main sur la plus ancienne statue de pierre que l'on ait jamais signalée en Chine. C'est un cheval nu, piétinant un barbare, daté sans conteste de l'année 117 avant Jésus-Christ. Pour la première fois, l'ère chrétienne est franchie. Mon cheval est une belle chose. Formant en bloc, très puissant sur sa base, pas énorme, 1,40 m de taille, il se grandit par toutes ses lignes. Quand, guidé par les chroniques locales,
je suis arrivé dessus, en plein champ. J'ai cru, de loin, n'avoir affaire qu'à un cheval plus ancien que les autres, mais le bras, puis l'arc, puis la tête énorme de l'homme renversé se sont dessinés tout d'un coup. Et j'ai passé 2 heures à regarder avant tout.
Quand pour la première fois un œil européen s'empare d'une forme de pierre, témoin de 2000 années du passé chinois, et que chaque coup de pioche fait tomber un peu plus du manteau de la terre, il monte une impression de possession personnelle, d'œuvre personnelle. Si bien que la seule description longtemps après prend un émoi d'aventure personnelle. Il subsiste au milieu des champs une bête vivante et blessée, ouvrant la bouche, et miaulant depuis 2000 ans un cri de pierre étouffé par la boule, avec un geste de rage dont la pluie n'a pu effacer le contour. L'œuvre humaine est là, malgré la désertion et les cultures plus envahissantes, plus étouffantes que la brousse, la jungle, la forêt. La bête crie à l'abandon.
Ce dernier extrait est issu de l'émission Un siècle d'écrivain du regretté Bernard Rapp. Alors, comment une stèle, une statue dégagée de sa gangue s'adresse-t-elle à celui qui la découvre?
D'abord, il la découvre, c'est-à-dire qu'il l'a fait exister. Il y a plusieurs exemples dans l'expédition de 1914. Il y a plusieurs exemples, outre celui que nous venons d'entendre relater, où Ségalen véritablement exhume des objets qui sont de très beaux objets, avec une intuition qu'il attribue d'ailleurs, avec beaucoup d'amitié, à Gilbert de Voisin.
Je pense son ami mécène, accompagnateur.
Oui, et je pense que lui aussi savait où se situaient les trésors qu'il a découverts, et il les exhume, il les fait exister, et aussitôt il rêve sur ce qu'il voit. C'est un écrivain, et c'est là qu'on voit très bien le passage entre le spectacle du monde, le paysage et l'écriture. Tout ça s'enchaîne très très naturellement, et on a l'impression, effectivement, quand on lit Ségalen, certains textes archéologiques, on a l'impression que ce sont les objets eux-mêmes qui se mettent à parler.
Alors là, enchaînement un peu acrobatique. Je me suis promis de parler de l'évanouissement du témoin. C'est le livre que vous venez de faire paraître chez Arléa. Aucun rapport. Apparemment, c'est l'histoire de l'évanouissement de l'écrivain qui se retrouve face à face avec Eichmann, après avoir séjourné lui-même à Auschwitz. Nous sommes pendant le procès d'Eichmann. Mais je vois ce chapitre. Les voyageurs familiers de l'Égypte. On n'est plus en Chine, on est en Égypte. Savent que le sphinx de Gizeh doit être abordé de face. Et vous racontez le dialogue entre Flaubert et Maxime Ducamp d'un côté, c'est comme De Voisin et Ségalen plus tard, un autre duo. Maxime est tout pâle, dit Flaubert, et moi j'ai la peur que la tête ne me tourne. C'est le même thème quand même, c'est le dialogue avec...
Oui,
l'objet archéologique.
C'est vous, Jean Lebrun, qui avez levé la parenté entre ces deux textes. Je n'y aurais même pas pensé, mais en effet, la rencontre avec de tels objets, le sphinx d'un côté, le cheval terrassant le barbare de l'autre, provoque certainement cette espèce d'impression qui dépasse évidemment la jouissance esthétique et qui devient une expérience d'un ordre métaphysique et en même temps très physique.
Et incompréhensible.
Et incompréhensible.
Comment comprendre la poésie, c'est un autre titre, mais on ne va pas le développer, de Christian Doumet. Il est à cheval, il tourne autour de la cité interdite, il est passionné par Pékin, qu'il décrit très bien, il voudrait savoir ce qu'il y a dans la cité interdite. Il se fait un ami d'un Belge, dont la crédibilité est faible, qui s'appelle Maurice Roy, et qui deviendra René Leys, le héros d'un roman très important de Ségalen, qui lui raconte alors des choses incroyables. Quoi. Lui, il a infiltré le palais, René Leys, il est des services secrets, il connaît les courtisanes, Jade aux 5 couleurs, Sœur minuscule, Montagne fleurie, etc. Et puis, quand il arrive à l'intérieur du palais, ben, il n'y a plus rien.
Oui, c'est une autre expérience de grande déception à laquelle qui lui est donné de vivre. Cette histoire avec Maurice Roy est une histoire tout à fait rocambolesque qui aurait pu être sujet de plaisanterie s'il n'en avait fait un véritable roman et quasiment un roman policier d'ailleurs.
C'est que il y a plus d'empereur, il y a eu un enfant Pouilly de 3-4 ans et puis la République est proclamée et puis la guerre commence. Alors qu'il est avec deux voisins au Tibet ou à proximité du Tibet, un missionnaire leur apprend que l'Europe est à feu et à sang. Il rentre, il va avoir des tâches difficiles pendant la guerre dans les hôpitaux, et puis aussi le recrutement des travailleurs chinois pour les alliés. La grippe espagnole, il est épuisé quand, retiré pour quelques semaines à Huelguat, à 30 km au sud de Morlaix, nous sommes donc en mai 1919, on va entendre sa fille, Annie Jolie Ségalène. Il part, peut-être pour une excursion.
21 mai, il quitta l'hôtel vers 10h du matin, comme il avait coutume de le faire en apportant son déjeuner. Il ne rentra pas le soir et les gens du pays, inquiets, commencèrent à le rechercher. Ils cherchèrent pendant toute la journée du jeudi et se décidèrent le lendemain à prévenir la famille. Ma mère partit immédiatement pour le Huelguat et, sans une hésitation, écrivit-elle, je suis allée là où, une semaine auparavant, le vendredi à la même heure, nous étions montés dans les broussailles au haut du gouffre. Depuis, il m'écrivait qu'il y revenait chaque jour. Et il était là, mort, depuis 2 jours et 2 nuits.
Alors, il faut dire, Dominique Pabin, qu'on retrouve le corps de Victor Ségalène donc, allongé sur son manteau de militaire qu'il avait revêtu le matin même. Et il a à ses côtés son volume des œuvres complètes de Shakespeare.
Alors voilà, on le voit avec un pied déchaussé, qui était le pied gauche, et une mare de sang sous le pied. Donc il s'est passé quelque chose. Et je pense, c'est mon hypothèse, que Victor Ségalène s'est volontairement blessé à la cheville. Il était droitier, il a pratiqué une lésion au niveau d'une artère du pied qui est battante et qui donne donc l'impression qu'il s'agit d'un accident et non pas d'un suicide. Il a mis en scène, je veux dire, comme un artiste, comme un acteur. L'acteur a un costume. Ce costume n'était pas rien. C'était le costume de son engagement comme médecin militaire, rôle qu'il a parfaitement joué, parce que lui-même était quelqu'un qui refusait. Les choses vraiment intimes ne s'écrivent jamais et ne s'expriment jamais. C'est lui qui l'a dit.
Dans le cahier de Lerne que vous dirigez, il y a la version de la famille et, longuement exposée, la version de Dominique Mabin qu'on vient d'entendre.
Oui, moi je n'aurais pas la certitude de Dominique Mabin sur cette question, qui de toute façon me paraît assez futile, on ne saura jamais ce qu'il en est. Ce qui est remarquable, c'est l'ensemble de circonstances qui entourent cette mort et la beauté de cette mort. C'est une des morts les plus belles de l'histoire de la littérature, je trouve, et ça c'est ce qu'on doit retenir, une mort qui est véritablement l'achèvement de ces 41 années de vie, d'écriture, de course et de boucle à travers le monde.
Et non loin d'un chaos dont les pierres, muettes, silencieuses, sont pas sans rappeler les chevaux du tombeau de l'empereur.
Ah oui, je suis allé récemment au Huelguat et c'est très très frappant. On a l'impression, par moment, d'un paysage chinois. Et il a réuni les deux en un même lieu. Et ça, c'est aussi un des génies de cette mort.
Merci à vous. Allez à Huelguat parce que le climat n'est pas celui de la Chine. Il est plus favorable aujourd'hui à l'école des filles, notamment, qui s'est longuement consacrée à Ségalène. Antoine Oberdorf, Franck Oliva, Frédéric Martin et Ilinka Negulesco, tout particulièrement, ont préparé cette émission réalisée par Audrey Ripouille avec Tristan Gratalon à la technique.